Make some noise.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Derrière.
Derrière.
L'objectif.
L'objectif.
Derrière l'objectif.
Je pense qu'en tant que femme, on peut tout faire. On peut faire des sujets ultra durs de guerre comme des sujets super sensibles, féminins. Enfin, il n'y a vraiment aucune différence. Alors oui, parfois, effectivement, en tant que femme, sur le terrain un peu dur, on va moins nous prendre au sérieux. Mais après, on peut aussi jouer ça en notre faveur, dans le sens où on se méfie un peu moins de nous, du coup. Donc parfois, on bat un peu des cils et puis on passe un checkpoint en série et ça passe.
Dernière et plus jeune recrute de l'agence Myop, la photojournaliste Chloé Charoc oriente son travail sur le droit des femmes, principalement au Moyen-Orient, à travers des histoires explorant la violence sous toutes ses formes. En 2019, son engagement l'emmène en Inde, où elle produit le récit Sugar Girls sur les hystérectomies forcées, un travail qui sera exposé à Visa pour l'image l'année suivante et récompensé par la bourse du Centre National des Arts Plastiques, la SCAM et le ministère de la Culture. Derrière l'objectif de Chloé Charoc, direction l'Égypte, nous sommes en 2018.
Je m'appelle Chloé Charoc, je suis donc photojournaliste de 29 ans, membre de l'agence Myop. Je travaille principalement dans la région du Moyen-Orient et beaucoup autour des thématiques liées aux droits des femmes ou des conséquences des conflits sur les populations civiles. Aujourd'hui, on va donc partir en Égypte.
Dans quelques secondes, elle va souffrir. Il n'y aura pas de rébellion, juste un sourire tendu. La famille a préparé la fête. Elle n'a pas d'autre choix. Dans son milieu de gens modestes, toutes les petites filles sont excisées. Elles sont des milliers à attendre quotidiennement le grand jour. Celui qui fait peur, mais qui, dans une communion de douleurs, rendra les petites filles semblables à leur mère. C'est le barbier qui officie. Il pratique plusieurs excisions par jour. Pour contenir la douleur, elle a beau appeler son père et sa mère, son ventre brûle. C'est le prophète qui ordonne. Il s'agit de réduire les besoins sexuels et c'est bien comme ça. Pour lui, la fillette est propre maintenant, lavée.
C'est vrai que je travaillais déjà pas mal sur la question des droits des femmes. Et puis, un collègue qui m'aidait un petit peu dans mon travail m'a un petit peu soufflé l'idée de partir en Égypte. Parce que l'Égypte était un pays où il y avait très peu de journalistes sur place, compte tenu en fait de la situation pour les droits de la presse, où justement c'est très compliqué de travailler là-bas. Et l'idée à cette époque pour moi était un petit peu d'essayer de me placer sur un pays où il y avait assez peu de concurrence, pour essayer de faire des reportages, pour voilà, un petit peu lancer ma carrière. Et donc, je me suis un petit peu renseignée sur l'Égypte, sur les différentes problématiques qu'il pouvait y avoir en rapport avec les droits des femmes. Et je suis tombée en fait sur des chiffres absolument aberrants, qui étaient les taux de pratiques d'excision en Égypte, qui étaient à cette époque à plus de 92%. Ce qui était d'autant plus étonnant, c'est que cette pratique touche en fait toutes les classes sociales et également la communauté chrétienne comme musulmane. Donc effectivement, face à ces chiffres qui m'ont juste absolument scotché, là je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un sujet là-dessus. Donc j'ai pris ma décision et je suis partie quelques mois après essayer de réaliser ce sujet. Je débarque au Caire avec beaucoup quand même d'appréhension. Tous les retours que j'ai eus, c'est à quel point c'est excessivement difficile de travailler là-bas et surtout sur des sujets un peu tabous. Et le mien était particulièrement tabou. Il touchait à la sexualité, aux droits des femmes, à la religion. Donc c'est vrai que je mettais un peu, on va dire, mon nez dans des problématiques qui n'étaient pas du tout faciles à traiter, du tout. En Égypte, c'est vrai que c'était particulièrement compliqué parce qu'il y a une espèce de paranoïa ambiante au sein de la population même également, envers les journalistes étrangers. Apparemment, il y a un réel problème, surtout pour les photographes. Et effectivement, en Égypte, dès qu'on sort un appareil photo dans la rue, on a tout de suite un policier qui vient nous dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous photographiez? Montrez-moi l'image !» Alors là, j'étais vraiment partie avec l'idée d'essayer de montrer un petit peu l'évolution en fait, de la lutte de cette pratique. Et donc, de quelle manière le gouvernement ou les ONG en place ou les activistes réussissaient ou ne réussissaient pas à faire reculer justement cette pratique. Donc, l'idée, ça a été vraiment d'arriver sur place et essayer de contacter un maximum d'activistes, de féministes, d'ONG, qu'elles soient locales ou internationales, des avocats pour les droits des femmes, des figures un petit peu qui essayent de combattre un petit peu tout ça. Et c'est vrai que là, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien, mais rien de tout ça. Il n'y avait aucune action concrète menée sur le terrain. Toutes les ONG qui avaient un peu essayé de combattre cette pratique me parlaient d'anciennes actions, mais donc du coup qui étaient déjà passées, ou bien qui me parlaient, je ne sais pas, de campagnes sur Facebook, ou enfin, voilà, des trucs vraiment en fait invisibles, donc impossibles à photographier. Et puis également, je me suis rendu compte qu'il y avait une véritable peur de la part des activistes ou des ONG de parler aux journalistes étrangers. Je crois qu'au bout de 3 semaines, j'avais toujours rien, pas rencontré une seule victime. Enfin, et c'est vrai que j'avais vraiment peur, encore une fois, de trop tirer des ficelles, de me faire repérer. Et effectivement, après, en fait, une fois qu'on se monte dans cette espèce de paranoïa et qu'en plus, on a la frustration de ne pas du tout réussir à faire un sujet, surtout quand on est jeune freelance et qu'on a investi plein d'argent dedans et qu'on se dit « c'est pas possible, je vais rentrer avec rien ». Enfin, donc voilà, donc il y avait un peu toute cette panique qui s'est un peu accumulée et je n'ai pas réussi. Du moins, pas ce premier séjour, quoi.
À la mutilation génitale. L'excision se fait généralement sur des fillettes entre 7 et 13 ans. Beaucoup ne savent pas ce qu'est la mutilation génitale avant de la subir. La pratique est interdite en Égypte depuis 2008, mais reste très répandue dans les milieux ruraux et populaires. Dans ce village du sud du pays, la grande majorité des femmes mariées sont excisées. Pour beaucoup, c'est avant tout une tradition associée à la pureté et à la chasteté des jeunes filles.
Oui, j'ai circoncis mes filles. Tu coupes juste un petit bout pour préserver la chasteté de la femme. Le médecin coupe juste une petite partie pour ne pas rendre la fille sexuellement inactive, mais que sa libido reste dans la moyenne.
Très souvent, il s'appuie quand même sur la religion, en disant que c'est dans les textes sacrés. Voilà. Que voilà, c'est la Bible qui a dit ça, c'est le Coran qui a dit ça, alors que absolument pas, c'est pas du tout mentionné. Et puis également, il y a une pression sociale qui est énorme, parce que du coup, c'est tellement une pratique banalisée qu'on considère qu'une jeune femme qui n'est pas excisée ne va pas se trouver de mari. Et mine de rien, dans cette culture, marier sa fille, c'est quand même super important, quoi. La pureté de la femme aussi, on considère qu'une fille qui n'est pas excisée va avoir des pulsions sexuelles qui font qu'elle va tromper son mari. Parce qu'évidemment, c'est à cause de la femme que... voilà. Bref, passons. Normalement, c'est une pratique qui est pénalisée. Depuis 2008, hein, c'est condamnable par la loi, c'est pénalisé légalement, etc., etc. Sauf que dans les faits, depuis 2008, il me semble qu'il y a peut-être 3 médecins qui ont été condamnés. Et 2 d'entre eux ont été relâchés et sont encore en train de pratiquer des excisions aujourd'hui dans leur jolie clinique au Caire. Là-bas, on ne parle pas de la sexualité, on ne parle surtout pas de ces excisions. On parle pas des traumatismes, on parle pas du sexe, on parle pas de... Enfin, tout ça, c'est pas possible. Donc, effectivement, j'avais rencontré des jeunes qui me disaient « Ah oui, ma grand-mère ou ma mère. » Ou « Voilà, oui, j'ai une copine qui machin. » Et dès que je leur disais « Bah, est-ce qu'elle voudrait témoigner ? Est-ce que... » Et bah là, tout de suite, les portes se refermaient complètement. Et c'était « Ah non, elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. » Personne n'ose parler. Et donc, au bout d'un mois, mon visa expirait. Il fallait que je rentre, en tous les cas. Et du coup, je suis rentrée vraiment extrêmement frustrée. J'avais quasiment rien du tout, en fait. Enfin, c'était assez dramatique. J'étais très, très découragée, vraiment déprimée. Voilà, une fois que je suis rentrée en France, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je peux pas, en fait, rester sur un échec comme ça. J'ai quand même investi de l'argent déjà. J'ai quand même, malgré tout, fait des recherches sur place. J'ai quand même une première lecture du pays. Il faut que je persévère, parce que sinon, je rentre et... Enfin, je peux pas abandonner, quoi. Donc, j'ai quand même réfléchi encore un peu à ce sujet pendant plusieurs mois. En essayant de réfléchir à différentes manières de faire, en me disant « Ok, c'est comme ça, je vais faire que du portrait et pas du reportage », mettre l'accent sur les témoignages. Et donc, je me suis décidée à repartir avec une deuxième idée en tête, un deuxième angle, qui était de photographier la lutte contre cette pratique en photographiant des femmes qui avaient été victimes en fait, d'excision, mais qui avaient refusé que leur fille se fasse exciser. Et à travers leurs témoignages, en faisant des portraits mère-fille comme ça, ensemble, et à travers le témoignage de ces mères, comprendre qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis, en fait, à un moment donné, dans ces 10 dernières années, 3 dernières années, enfin voilà, ça dépendait de l'âge de la fille. Et c'est un peu le seul moyen de parler, du coup, d'actions passées qui ont eu un effet sur la lutte contre cette pratique.
Zeynab est une mère de famille égyptienne. Sa fille a 8 ans, l'âge à partir duquel l'écrasante majorité des parents égyptiens font exciser leur fille. Pour Zeynab, il en est hors de question.
C'est une partie du corps humain que Dieu a créée. Il ne faut pas la déformer. Il faut la laisser telle que Dieu l'a créée.
Je suis repartie en avril 2019, quelque chose comme ça. Je m'étais mise en contact avec une journaliste française qui habitait au Caire et qui, elle, bossait sur le sujet depuis maintenant plusieurs années, qui a pu également vraiment beaucoup m'aider en me donnant des contacts qui ont été extrêmement utiles, en me faisant part de son expérience à elle, en travaillant sur ce type de sujet. Et puis, bah, tant bien que mal, je crois que j'ai réussi à faire 9 portraits, quelque chose comme ça. Voilà, c'était un peu difficile, mais voilà, j'ai réussi plus ou moins à faire ce que je voulais, à savoir ces portraits mère-fille, un peu partout en Égypte, hein, donc dans le sud de l'Égypte, au Caire, à Alexandrie, dans des grandes villes, chez les Coptes, hein, chez les musulmans, des petits villages, voilà, un truc un peu plus varié, quoi. Là, c'était plus facile parce que, en fait, il suffit en fait de trouver la bonne personne de confiance, une activiste ou également je suis passée par des figures religieuses, à savoir un imam, un prêtre. Et en fait, là, tout de suite, c'est des personnes qui ont la confiance de ces femmes, hein, et qui, du coup, vu qu'on passe par des personnes de confiance, les femmes acceptent de parler. Et il y a également aussi, dans des petits villages, par exemple, il y a un espèce d'effet boule de neige, hein, à savoir que si une femme accepte de parler, une autre va dire oui. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec 8 femmes autour de nous qui voulaient toutes absolument parler, qui nous racontaient les détails incroyables de leur vie sexuelle, de leur excision, une espèce de déliment des langues incroyable. Et puis voilà, également pareil, je suis tombée sur une avocate qui défend les droits des femmes, qui est incroyable et qui elle-même avait été victime de ça. Et elle faisait vraiment en plus partie d'un réseau de défense des droits de l'homme en Égypte. Et là, quand elle m'a parlé en fait de cette expérience d'excision, enfin, pour elle, c'était vraiment, elle l'a vécu comme un viol, mais en plus un viol auquel ses parents assistent, et auquel ses parents participent, et qui en plus se solde par une mutilation, et qui l'a tellement traumatisée. Mais là, elle me racontait, voilà, pendant 25 ans, moi, c'était impossible qu'on me déshabille, mon mari. Il a fallu attendre très longtemps avant que j'accepte de consommer notre mariage. À chaque fois, je le vivais comme un viol aussi, alors que mon mari, j'étais amoureuse de lui. Et elle a été tellement traumatisée que le jour de son accouchement, elle a refusé que les médecins la déshabillent. Et elle a failli perdre en fait son enfant à l'accouchement parce qu'elle était tellement traumatisée qu'elle ne voulait pas qu'on la touche, qu'elle ne voulait pas que les médecins regardent entre ses jambes. Enfin, ça a été vraiment... Et donc finalement, elle a dû accoucher en césarienne, en urgence absolue, à deux doigts de perdre son enfant. Un vrai, vrai gros traumatisme. Son deuxième enfant, elle a failli le perdre encore de la même manière. Parce que là, pareil, en fait, le traumatisme est revenu. Et pour elle, il était hors de question qu'on la voie nue. Et effectivement, maintenant, elle essaie de combattre ça du mieux qu'elle peut. Elle essaie de convaincre toutes ses amies de ne pas faire exciser leur fille. C'est vraiment une femme qui m'avait touchée parce qu'il y avait ce contraste entre la force d'une femme indépendante, moderne, qui portait des pantalons et des talons, qui allait bosser dans un bureau de défense des droits de l'homme, qui... Voilà, sacrée nana. Et qui, à côté de ça, avait quand même cette espèce de cicatrice tellement profonde et... Enfin... Alors, il y avait plein de portraits. Il y en a un en particulier, je me souviens que ça avait été une calamité. C'était le dernier, je crois, que j'avais pris dans un petit village tout au sud avec que des nanas coptes. Et c'était là, justement, où les femmes, au début, voulaient pas trop nous parler. Puis une parle, du coup, deux. Puis... Et à la fin, on s'était retrouvés avec la journaliste Ariane Lavrieux, avec laquelle je travaillais, entourée, mais de plein de femmes, et alors qui piaillaient dans tous les sens. Elles voulaient toutes parler, du coup. Et donc, c'était un peu l'effet inverse, parce que du coup, on n'arrivait rien à comprendre. Et en fait, ma batterie de ma lumière se décharge. Avant que j'arrive à faire la photo, j'étais là genre oh « non, c'est pas vrai ». Et j'avais vraiment besoin de ce portrait. Une galère pas possible, j'arrive à charger mon espèce de petite lumière portative. Je refais le portrait, paf, le truc se rééteint. Là, je me dis « oh là là, c'est pas possible, en plus on n'a plus que 10 minutes ». Enfin bref, une catastrophe. Hein. Et je crois que j'ai réussi à faire le portrait. J'ai fait clic et paf, la lumière s'est arrêtée, quoi. Et là, je me suis dit, bon, j'abandonne. Je crois que la lumière est définitivement cassée. Mais c'est le portrait in extremis. Il n'est pas si mal parce que du coup, en fait, elle est un peu en train de regarder ses copines ou je ne sais pas quoi. Et du coup, il y a un côté assez naturel à la photo. Et ça, c'était vraiment le portrait. À la seconde près, vraiment, j'ai appuyé sur le déclencheur et le truc s'est éteint après. Donc voilà, donc ça, c'est un peu les galères techniques parfois sur le terrain comme ça. Même si là, j'avais trouvé une espèce d'angle un peu plus intéressant, malgré tout, à la fin de mon séjour, j'avais réussi à faire que 9 portraits. Et 9 portraits, voilà, en plus, j'avais essayé de jouer un peu avec la lumière artificielle. Enfin, moi, normalement, dans ma photographie, je fais que de la lumière naturelle, donc là, j'étais un peu prise au dépourvu. Mais voilà, je m'étais dit, il faut que je fasse des portraits qui claquent, parce que sinon, ça va être tellement lambda, en fait, comme sujet, qu'il faut que je me différencie au moins un petit peu par l'esthétique. Et puis également, bah malgré tout, 9 portraits, c'est beaucoup. À la fois, c'est pas beaucoup, c'est pas une série entière. Enfin, c'est... Alors, je les ai publiés dans la chronique d'Amnesty International en France. C'était pas mal parce que du coup, c'est quand même un truc assez engagé. J'avais de la place pour mettre les témoignages des femmes, donc c'était quand même pas mal. Hein. Je pense qu'en tant que femme, on peut tout faire. On peut faire des sujets ultra durs de guerre comme des sujets super sensibles, féminins, enfin... Il n'y a vraiment aucune différence. Alors oui, parfois, effectivement, en tant que femme sur le terrain un peu dur, on va moins nous prendre au sérieux. Mais après, on peut aussi jouer ça en notre faveur, dans le sens où on se méfie un peu moins de nous, du coup. Donc parfois, on bat un peu des cils et puis on passe un checkpoint en série et ça passe. Par contre, il y a des sujets, à contrario, que les hommes, pour le coup, ne pourraient pas du tout faire. Comme des sujets comme celui-ci, ce qui touche un peu à l'intimité de la femme dans des sociétés extrêmement patriarcales. Oui, les premières années, c'est compliqué. On arrive dans un milieu qui est très compétitif. En plus, bah, quand on veut débuter dans du grand reportage, on va pas nous envoyer directement alors qu'on n'a jamais fait de photo. Donc, c'est à nous de d'abord investir pour prouver qu'on en est capable. Donc, financièrement, c'est sûr que c'est voilà, un espèce d'engrenage et de mécanisme en fait, à mettre en place qui est assez compliqué. Mais moi, je sais que dès le départ, en fait, je me suis dit « Ok, je pars là-bas, je finance tout ». faut y aller, faut pas trop se poser de questions, faut, voilà, en fait, faut juste pas attendre au début que des commandes nous tombent dessus, faut se les créer soi-même, ces commandes. Faut pas hésiter à partir avec, voilà, son petit budget. Moi, je sais que les premières années, je faisais 20 heures de babysitting par semaine et je bossais dans des restos. Et après, je partais et quand je revenais, je refaisais ça et voilà. Et maintenant, j'ai arrêté tous les petits boulots alimentaires et je vis que de ça et ça se passe pas trop mal, donc c'est possible, quoi.
Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.